Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir, c'est le NRV, le magazine de la double bonne soirée. Vous le savez, ça commence dès 18h en avant-première, en podcast, avant le passage antenne, 22h minuit. Bienvenue à toutes et à tous, programmation semaine de vacances, le meilleur de 2019. Et ce soir, avec Benoît Lagan, on se la joue mafia. Au programme double casting, Marlon Brando et Toto Riina, le mafieux de Corleone. Marlon Brando était le héros de la rentrée littéraire au centre du roman Les derniers jours de Marlon Brando de Samuel Blumenfeld, le plus brillant des critiques cinéma du monde. C'était notre émission du 4 septembre dernier et quelques jours plus tôt, le 27 août, eh bien on avait fêté la sortie du documentaire exceptionnel Le parrain des parrains signé Mosco Levi Bucco qui nous avouait sa fascination pour le film de Coppola, Le parrain avec qui ? Avec Marlon Brando. Marlon Guilbault.
J'adore.
Marlon Guilbault, vous, qu'est-ce que vous dégainez ?
Ah, moi j'avais rendez-vous aussi avec un affranchi ce soir-là, c'était l'icône de la marge américaine, toujours prêt à en découdre avec l'establishment de son pays. Ezra Furman était en live dans le NRV.
Et puis autre temps, autre parole, ce sera le NRV la suite, France Inter Plus. Allez, le NRV c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Avant de commencer cette soirée mafia, on met un film noir à notre programme. Film noir, c'est une sœur et son frère, Joséphine et Alexandre Delabaume, pour un garage rock aussi brûlant que glamour.
Mais qu'est-ce qui peut leur faire?
Et il est temps de retrouver nos invités. Samuel Blumenfeld, l'auteur des derniers jours de Marlon Brando chez Stock. Arthur Cerf, qui publiait Marlon Brando, les stars durent 10 ans chez Capricci. Et Guillemette Odissino. Première question, c'était pour Samuel Blumenfeld, le journaliste au Monde, qui se met en scène dans son roman en journaliste qui va interviewer la star Brando chez lui à Los Angeles, dans sa maison Bunker, en octobre 2000, et puis 4 ans plus tard, quand Brando avait 80 ans. Ça, c'est la fiction, mais dans la vraie vie, je me suis demandé combien d'entretiens Brando avait donné. Samuel Blumenfeld.
Je dirais une dizaine comme ça, 10-15, enfin 10-15 sur toute la carrière de Brando, donc ça fait pas beaucoup. Fondamentalement, Brando n'a donné qu'une seule interview sur sa vie, sur sa carrière. C'était dans les années 60, à Truman Capote.
À Truman Capote, c'est le début du livre. Ouais.
Absolument, Truman Capote qui savait faire parler à les gens, qui savait également très bien en parler. Et Capote était... parvenu, parce qu'il était quand même très très madré, très rusé, très roublard, il était parvenu à s'insérer dans la chambre de Brando.
Ouais, avec une bouteille.
Avec une bouteille de whisky, donc tout ce petit monde a bu gaiement, et Brando a parlé. Il a parlé comme jamais il a parlé, dans un article qui sera publié plus tard dans le New Yorker, le duc en son domaine, un portrait formidable, et surtout Brando a d'autant plus facilement parlé qu'il pensait que ses propos n'étaient pas enregistrés. D'ailleurs, il ne l'était pas.
D'ailleurs, il ne l'était pas parce que Truman Capote n'enregistrait absolument jamais rien.
Mais en revanche, il était hypermnésique.
Exactement. Ouais. Et vous-même, est-ce que vous l'avez rencontré dans votre carrière de journaliste au Monde ?
Non, jamais. C'était impossible. Enfin, c'était impossible, ou plutôt c'était, on va dire, c'était la baleine blanche de Moby Dick pour un journaliste. C'était un acteur qui vous faisait
c'est
rêver.
C'est un commentaire corporel aussi.
J'irai pas jusque-là. Mais il vous est rêvé parce que vous saviez que c'était le plus gros coup que l'on puisse décrocher dans sa carrière. Plus beau, car tout simplement impossible. En revanche, je l'ai rencontré, en fait, finalement, mais dans un monde parallèle.
Qui est celui du roman et au cinéma. Alors, au début du roman, vous écrivez que dans votre histoire personnelle, dans celle de votre personnage, en tout cas, Brando a une place compliquée, que vous n'avez rien appris de lui, jamais cherché non plus un quelconque enseignement, sans doute parce que votre personnage, et peut-être vous-même, n'aviez pas vu les bons films. Qu'est-ce que vous aviez vu de lui, ou qu'est-ce que votre personnage aurait vu de lui pour avoir une mauvaise idée de Brando, acteur ?
Alors, on est toujours lié, vous savez, à son vécu, à son itinéraire, et donc aux films dont on a été contemporain. Moi, j'ai grandi dans les années 70, comme beaucoup d'autres personnes, mais je n'ai pas été le contemporain du Brando, du grand Brando, de Sur les quais, de oui, Viva mais... Zapata, d'un tramway de mes désirs.
Oui, mais vous avez été
César.
Le Brando du retour, du grand retour ensuite.
Bah, écoutez.
Du parrain, alors, Apocalypse
si,
Now.
Alors, si vous voulez, oui, mais si vous voulez, quand on arrive à Apocalypse Now, ce n'est plus l'enfant chez moi, c'est l'adolescence. Le voisinage avec un acteur, enfin, selon moi, il se fait à l'enfance. C'est là que les liens se nouent et que vous choisissez si cet acteur fera ou non partie de votre famille. Or, dans l'enfance, le Brando que j'ai rencontré, c'était le Brando qui traversait le trou noir de sa carrière. Donc, si vous voulez, je pense à un film comme Candy, Christian Marquand, qui est un film absolument honteux. On se dit, mais comment est-ce que cet acteur a pu descendre aussi bas et pourtant, bon, malheureusement, voilà.
Parce qu'il lévite, non, dans le film, à un moment où
il a une coupe de cheveux absolument aberrante.
Alors, vous avez vraiment un problème avec la coupe de cheveux. Il y a des pages consacrées donc au problème capillaire de Marlon Brando, mais quelques pages plus loin, au problème capillaire de Sean Penn. C'est-à-dire que vous faites une fixation, en tout cas votre personnage de journaliste, fait une fixation sur les délires capillaires des acteurs hollywoodiens.
Il n'y a pas Nicolas Cage ?
Trop tôt. C'est trop tôt.
Mais, et Donald Trump.
Mais maintenant que vous me le dites, il y a désormais une piste. Même si dans le cas de Nicolas Cage, il y a des implants capillaires, quoi.
Mais qu'est-ce que c'est que cette fixation, justement, sur les dérives capillaires des acteurs hollywoodiens?
C'est toujours quelque chose qui m'a tapé dans la tête et que je n'arrive pas à m'extraire du cerveau. Vous savez, une coupe de cheveux, je pense, pour une star de cinéma, ça renseigne beaucoup sur l'état de votre carrière. Et je pense que dans le creux, le trou noir de la carrière de Brando à la fin des années 60, ces coupes de cheveux, c'est absolument n'importe quoi et c'est pas quoi en faire. C'est solidaire, enfin, je veux dire, la coupe de cheveux est artistiquement solidaire.
Arthur ?
Il y a d'ailleurs Truman Capote dans son portrait, quand il retrouve Brando, c'est l'une des premières choses qu'il commande. C'est la première fois qu'il l'avait vu, c'était pendant une répétition d'un tramway nommé Désir. Et il le retrouve 10 ans plus tard, un peu changé physiquement. Il y a 10 ans qui sont passés et il note tout d'abord que le front a un petit peu pris sur les cheveux, qu'il a le cheveu beaucoup plus fin qu'avant.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est la part de vérité, c'est-à-dire, vous revenez sur les masterclass, Lying for Living, Mentir pour Vivre, dans lesquelles Marlon Brando se mettait en scène, déguisé quelquefois en femme. Enfin, d'ailleurs, il adorait ça, même à la fin de sa vie, dans les dernières... C'était vraiment, oui...
C'était son grand truc,
c'était son grand-mère. Hein, oui, pas en femme, en grand-mère.
En grand-mère. Hein. En grand-mère, avec du rouge à lèvres.
Oui. Et puis, les ongles faits. Il se retrouve donc déguisé en femme, en masterclass, face quand même à Sean Penn, DiCaprio, Nick Nolte, Whoopi Goldberg. Qu'est-ce que révèlent ces masterclass? Moi, j'ai même pensé à un moment donné que c'était des fictions. On a été obligé de vérifier sur Internet pour voir qu'elles existaient.
Ouais. Ah, et comment elles ont existé? Ce que vous oubliez, vous citez les stars qui assistaient à ces masterclass.
Complètement, d'ailleurs, sadisées.
Complètement sadisées, comme souvent. Et on peut surtout pas oublier l'autre partie du public, qui était composée en partie de clochards qui avaient été pris, comme ça, pris dans la rue sur Sunset Boulevard.
Et qu'il faisait d'ailleurs intervenir lors de ces masterclass.
Absolument, que Brando estimait aussi compétent pour parler de l'art dramatique que Sean Penn, Nick Nolte, et beaucoup plus compétent que DiCaprio. Mais ce qui m'avait frappé sur ces masterclass, donc l'idée, enfin, le projet de Brando, c'était donc ces masterclass, donc qui était sur Brando dissertant sur l'art dramatique, donc habillé en grand-mère,
en filmé, balançant des banalités terrifiantes,
affligeantes pour tester également son public, pour voir jusqu'où est prêt à aller son public. Et le projet de Brando était de commercialiser ces masterclass sur Internet, sur un site qui se serait appelé marlonbrando.com. Et ce qui me fascinait, c'était l'idée en fait que le plus grand acteur d'histoire du cinéma est quelqu'un qui était, à la fin de sa vie, en recherche de liquidité et prêt à tout pour ça.
Guillemette ?
Oui, mais au-delà, effectivement, enfin, du côté pécunier qui avait l'air un vrai problème pour lui, il y a vraiment quelque chose du bouffon. Enfin, y compris dans les problèmes capillaires majeurs, avec une manière d'avoir une image de soi qui correspond plus très bien, ou même une image presque moqueuse de soi-même, une négligence presque volontaire vis-à-vis de son apparence. Et là, enfin, se retrouver en mémé, en faisant exprès venir des clochards pour dire des banalités sur l'art dramatique, il y a quelque chose qui renvoie... Enfin, lui-même se présente comme un bouffon, joue de ça. Et dans certains de ses rôles aussi, il y a une bouffonnerie. Enfin, il y a quelque chose de la folie bouffonne, en fait, chez cet homme, quoi.
Ah, absolument. D'ailleurs, Brando était déjà apparu habillé en grand-mère dans Missouri Breaks, d'Arthur Penn, qui est un de ses derniers grands films. Je pense que le dernier grand film de Brando, on sera tous d'accord, c'est Apocalypse Now. Mais son avant-dernier bon film, c'est Missouri Breaks. Il apparaît habillé en grand-mère, et quand il apparaît là, on se dit, qu'est-ce qu'il fait?
C'est lui qui l'exige, en plus.
De toute façon, à ce moment-là, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Donc il fait son film à l'intérieur du film des autres, même un petit peu chez Coppola. Mais ce que tout le monde a oublié, ce que l'histoire rejette, et on comprend bien l'histoire d'ailleurs, elle a vraiment ses raisons, c'est que la dernière apparition de Brando, le dernier emploi de Brando dans sa carrière, quelques mois avant sa mort, c'est pour enregistrer une voix de grand-mère dans un dessin animé de télévision.
Habillé en grand-mère.
Habillé en grand-mère. Il tient à s'habiller en grand-mère pour enregistrer cette voix.
Arthur Serre. Et c'est lui d'ailleurs qui a demandé à jouer la grand-mère. Ouais. On lui a proposé de faire une voix pour ce dessin animé.
Oui, c'est lui qui va changer dans le casting pour jouer la grand-mère.
Pour jouer Madame Sucre, qui est le méchant du film. Et le film ne verra jamais le jour, d'ailleurs.
Il n'a jamais été diffusé.
Ouais. C'est vrai qu'on est très très loin de Sur les quais. Quand
même. Très très loin du Parrain. D'ailleurs, on va écouter un extrait quand même d'un des rôles majeurs du Parrain, qui d'ailleurs l'a marqué, puisqu'il s'est dit qu'il avait tout dit dans le Parrain, qu'il n'y avait plus rien à dire après.
Voilà, Seine. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec aussi peu de respect? Vous seriez venu à moi comme un ami. Alors les voyous qui ont touché votre fille seraient déjà en train de souffrir. Et si par hasard un homme comme vous avait se plaindre d'un ennemi, alors son ennemi deviendrait le mien. Et il aurait très peur de vous.
Soyez mon ami. Parrain.
Bien.
Samuel Blumenfeld, qu'est-ce que représentait ce film véritablement pour Brando sur un plan de cinéma, mais aussi sur un plan personnel?
Je pense que le Parrain sauve sa vie, en fait. Il sauve sa carrière d'une certaine manière. Parce que faut pas oublier qu'à ce moment-là, donc au début des années 70, Brando était considéré comme une malédiction au box-office. Et Coppola avait pu l'engager, mais après moult réticences.
Il a dû l'imposer.
Vraiment, il avait vraiment dû l'imposer et se battre. si Coppola ne s'était pas battu, on se souviendrait uniquement du Brando des années 50, en fait. Il serait véritablement en charpie. Également, je pense que c'est l'un de ces deux ou trois rôles où se manifeste de la manière la plus patente son génie. C'est absolument, c'est extraordinaire, c'est bouleversant. Et quand même, il faut pas oublier que son rôle, donc, de Don Corleone dans Le Parrain, c'est un rôle qu'il écrit, c'est un rôle qu'il crée, quoi. Enfin, je veux dire, il en est l'auteur.
Et c'est un rôle de
sa
père.
Sa voix, ses bajoux, en fait, qui étaient avec du coton ou du papier toilette mis à l'intérieur de sa bouche, le chat qu'il tient, il a bâti ce rôle en deux coups de baguette. Dès que vous voyez le premier plan du Parrain, vous vous dites c'est lui. Ça peut pas être quelqu'un d'autre et ça peut pas être autrement avec une autre gestuelle. C'était un génie, mais malheureusement pour lui, ce génie de l'art dramatique haïssait au plus haut point sa discipline de prédilection. C'est le drame de sa vie.
Pour quelle raison fallait-il faire un focus sur les derniers jours de Marlon Brando, c'est-à-dire donc présenter quelqu'un qui a été une star énorme à tous les sens du terme, finir entre sur un lit avec ses Kleenex remplis de merde autour de lui? Pourquoi fallait-il finir sur cette, enfin construire un roman sur cette image-là, Samuel Blumenfeld?
Parce que le drame des stars de cinéma, et a fortiori Brando de manière encore plus intense, c'est, comme l'écrit si bien Arthur Cerf, c'est 10 ans de carrière. Alors on va dire c'est 15 ans, on va ergoter, on va dire c'est 15 ans de carrière, mais si vous voulez, c'est pas grand-chose dans une vie. Et donc, devant vous, votre perspective, c'est 25, 30 ans, 40 ans à ne pas mourir. En quoi consiste l'existence de quelqu'un qui attend juste de ne pas mourir? C'est ça que je voulais comprendre.
Et qui, si je peux me permettre,
Guillemette,
je pense un peu à Alain Delon, dans le même genre comme ça de bête de cinéma, qui pendant effectivement 10, 20 ans, enfin la période viscontienne et un peu plus tard, et ce moment-là, le même moment que Brando, et après c'est, alors, ne pas mourir, ou savoir, et c'est horrible, savoir qu'on va forcément faire moins bien, qu'on fera moins bien, qu'on ne pourra pas faire aussi bien et sûrement pas mieux que ces 10 ans-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Delon ne cesse de convoquer le passé, ne cesse de convoquer Visconti, Melville et tout, parce qu'en fait, il sait très bien qu'il n'a jamais fait mieux que ça, et il n'y a que ça qui compte. Donc c'est ne pas mourir et aussi ressasser un passé disparu.
Cette amitié avec Michael Jackson, ça, je l'ai appris. C'est une fiction ou
c'est... C'était en aucun cas une fiction. Elle est absolument authentique. Je pense même que la dernière fois que Brando est finalement sorti de son repère de Mulholland Drive, puisqu'en fait, il ne faut pas oublier qu'à la fin de sa vie, dans ses derniers jours, il était prisonnier de son corps. Il était prisonnier de 140 kilos. Donc, il ne pouvait pas bouger. Donc, la dernière fois qu'il est sorti, c'est pour aller chez Michael Jackson. Il se retrouvait sur un terrain évident, qui est celui de cette grande névrose américaine qui touche tous les puissants, les milliardaires, ces figures qui à un moment deviennent hors d'atteinte, le syndrome Howard Hughes. Eh bien, quand vous devenez un mythe vivant, quand vous arrivez à un tel niveau de puissance aux États-Unis, vous prenez en fait la succession des grands rois européens et vous terminez seul dans votre demeure, désormais transformée en forteresse-château.
J'ai vu des horreurs que vous avez vues. Mais vous n'avez pas le droit de me traiter de meurtrier, vous avez le droit de me tuer. De cela, vous avez le droit. Mais vous n'avez pas le droit de me juger. Il est impossible de trouver les mots pour décrire ce qui est nécessaire à ceux qui ignorent ce que l'horreur représente.
Alors, ce que l'on vient d'entendre, bien sûr, c'est un extrait d'Apocalypse Now. Et à ce sujet, Arthur Serre, vous écrivez « Le choix de Marlon Brando pour ce film est, je vous cite, « pas innocent dans cette recherche de grands mouvements hallucinés d'un désastre organisé et d'une apocalypse en clair-obscur ». Est-ce que ça voudrait dire que le film serait un documentaire sur Brando ?
C'est une bonne question. Non, après, ce qui est intéressant, c'est que Coppola a déjà travaillé avec Brando. Il sait très bien ce qu'il va chercher quand il appelle Brando. Il sait que, en fait, ça fait partie de cette espèce de recherche de chaos. Il cherche quelque chose de très bizarre. Enfin, on sait que le tournage est une catastrophe. Le plateau sera ravagé par un typhon, etc.
Il y aura des morts.
Il y aura des morts. Tout le monde prendra de la drogue.
Martin Sheen a une crise cardiaque.
Voilà, on sait que c'est très difficile de caster l'acteur. Et quelque part, prendre Brando, il sait très bien à quoi il s'attaque quand il fait ça. Il va chercher aussi cette espèce de figure mythologique qui correspond parfaitement au personnage de Kurtz. Et puis, c'est aussi ce Brando qui incarne à ce moment-là un reclus dans son royaume. C'est la fin des années 70 et il est cette espèce de souverain enfermé dans son palais de Mulholland Drive, et donc ça correspond aussi quelque part au rôle de Kurtz. Donc c'est en fait ce qu'écrit aussi Samuel Blumenfeld dans son livre. C'est qu'à partir des années 60, il se joue sans arrêt dans la filmographie de Brando une espèce de confrontation entre les films et le film de la vie de Brando qui se joue au fil de ses rôles. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, il y a quasiment des épisodes de la vie de Brando et des phases de la vie de Brando qui sont beaucoup plus intéressantes que certains des films dans lesquels Brando a joué dans les années 60.
Ce qui est fou, c'est que sur l'affiche d'Apocalypse Now, Brando, on le rappelle, a quand même une scène qui dure 10 minutes hein, à peu près. Hein. Et son nom est plus gros et plus haut que celui de Martin Sheen, qui est le héros du film. Et c'est fou, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose... Enfin, Coppola sait que ce nom, après en plus évidemment le parrain et tout, que ce nom, ça va faire quelque chose d'apocalyptique, en fait. Justement. Ouais.
Et puis il est absent 90% du film. Voilà, il a une minute d'apparition.
Et il est tout le temps. Enfin, et c'est sa présence. Et enfin, c'est.
Il n'est question que de lui. Il n'est question que de lui.
C'est un monstre absent.
Et puis on se retrouve comme Arthur Seff l'a dit très justement. Brando incarne une figure totémique. C'est la figure totémique idéale au moment où Coppola réalise son film, et presque une figure totémique presque absolue. Il y a presque pas mieux. Et l'intensité de Brando est telle, je dirais pas sous ses derniers feux, parce que c'est la dernière fois véritablement qu'il apparaît dans un grand film. Et il le sait presque, et on a presque l'impression, en fait, il joue dessus.
Il avait pas du tout appris ses rôles.
Comme d'habitude. Voilà, exactement. C'est aussi un film où je joue l'espèce de paradoxe de la vie et de la carrière de Brando, c'est que il est cette espèce de bouffon qui n'arrête pas de mépriser son métier, enlisé dans une espèce de mépris de lui-même et de l'industrie pour laquelle il travaille et qu'il a couronné.
Oui, parce qu'il fait des films simplement pour payer les factures.
Voilà, ça, il a toujours assumé cette espèce de vénalité qui va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Et en même temps, sur le tournage, une fois qu'il aura lu le bouquin, il va accepter
de Conrad,
voilà, il va accepter de se raser le crâne et il va apporter au film une espèce de retour à un calme, à une espèce de méditation nécessaire au récit que Coppola, lui, ne savait pas vraiment comment mener à terme, en fait, en arrivant là-bas.
À partir de quand il n'apprend plus du tout ses rôles, et puis les textes sont placardés sur les décors? Il y a même des décors qui sont construits pour qu'on puisse placarder les répliques, ou alors il les met des post-it sur la tête des acteurs.
Il n'y avait pas encore d'oreillettes?
Non, mais...
Il y a certains acteurs qui tournent à l'oreillette.
Bah
hein.
Oui, Gérard Depardieu, voilà, avec les post-it.
Notre Brando à nous.
Mais chez Brando, ça commence assez tôt, hein, dès les années 60, alors qu'il pouvait tout à fait, les apprendre.
Il mémorise Shakespeare, il peut réciter Shakespeare tous les jours.
Exactement. Alors, donc, il y a ce syndrome qui s'impose très rapidement dans sa carrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Brando dans un film, en fait. On le voit toujours bouger de manière étrange, se contorsionner légèrement, et on se dit, c'est vraiment, sa manière de bouger est vraiment exceptionnelle, elle est unique, il n'y a que lui pour faire ça.
C'est pour choper le post-it.
Quand il bouge, en fait, et quand il y a une légère contorsion, c'est tout simplement pour voir le post-it qui est sur le front d'un acteur ou d'un technicien, ou une affiche qui se trouve sur un mur. C'est rien d'autre. Mais, bon, disons que Brando, quand même, c'est moins qu'on puisse dire, s'affranchit avec bonheur de cette contrainte.
Alors, dans le livre Samuel Blumenfeld, Les derniers jours de Marlon Brando, vous revenez bien sûr sur Apocalypse Now, mais pas tellement. Il y a un autre film qui vous intéresse plus particulièrement, c'est Le dernier tango à Paris, extrait.
My father was a drunk, tough, whore fucker, bar fighter, super masculine, and... It was tough. My mother was very, very poetic. And also a drunk. And, all my memories, when I was a kid, was of her being arrested nude. We lived in a small town farming community, lived on a farm.
Bien sûr, on a choisi la version en VO pour avoir la voix si particulière de Marlon Brando, parce que derrière cette voix, il y a la voix de son père, une voix légèrement nasillarde avec quelquefois des pointes d'aigus. Alors, je traduis ce que racontait Marlon Brando, qui s'adresse à Maria Schneider, qui lui demande des souvenirs d'enfance, et il lui dit « Oh, mon père était un ivrogne, un baiseur de pute qui aimait se battre dans les bars, super masculin et indur. Ma mère était d'un tempérament très très poétique, et une ivrogne elle aussi. Et tous mes souvenirs de jeunesse concernant ma mère se résument au jour où elle a été arrêtée toute nue. Nous vivions dans une petite ville, une communauté de fermiers. » Vous revenez longuement sur cette scène, Samuel Blumenfeld, qu'est-ce que ça vous permet de raconter ?
C'est
un moment très particulier.
C'est un moment très particulier.
Du film.
Absolument. Il faut pas oublier que Le Dernier Tango à Paris est en partie un documentaire sur Brando. C'est un documentaire sur Brando qui a été voulu comme tel et instigé par le réalisateur Bertolucci, qui avait pensé à d'autres comédiens auparavant et qui, le jour où il a l'accord de Brando, reconfigure complètement son film et se dit « je vais en faire un document sur Brando ». Document ô combien précieux. Dans ce fameux monologue où Brando raconte son enfance...
À lui, pas l'enfance de son personnage.
Non, son enfance dans le Nebraska, racontée de manière à la fois bouleversante et crue, racontée en fait de manière brandoesque, enfin tout à fait à son image.
Et improvisée.
Et improvisée. C'est le seul moment, qu'on parlait tout à l'heure du peu d'interviews de Brando qui existent, c'est le seul moment où Brando se confesse explicitement face caméra. C'est absolument unique et c'est bouleversant dans un film qui est ô combien singulier.
Il dira d'ailleurs que Bertolucci lui a trop pris, qu'on ne devrait pas demander autant à un acteur sur un film. Il se sentira presque trahi, il refusera de parler à Bertolucci pendant très longtemps.
Tout à fait. Et en même temps, Bertolucci a eu raison de le trahir. Parce que sinon, on n'aurait pas eu ce film. Il faut que les metteurs en scène, parfois, se comportent en voleurs et en truands. Pour que nous, spectateurs, puissions avoir une récompense.
Et ce sera le mot de la fin. Il est signé Samuel Blumenfeld, l'auteur des Derniers Jours de Marlon Brando chez Stock. À ses côtés, il y avait Arthur Cerf pour Marlon Brando, les stars durdisants chez Capricci. Et enfin, Guillemette Audicino, qui elle signait Toscan, Papa et moi aux éditions La Martinière.
Bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. I'm in it. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back and I'm in it. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. Why I'm in gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Shampoo press, get you out of.
Truth Hurts par le phénomène disco rap de l'année, la bad girl américaine Lizzo, alors après Brando, la mafia, direction Corleone, le village du parrain des parrains, Totorina.
Le nouveau rendez-vous.
C'est comme une école. Une école où tu n'étudies pas avec les livres, mais une école où tu observes. Tu observes chaque geste que fait un mafioso. Tu étudies les attitudes du mafioso.
Laurent Goumard.
Et comme on dit, qui fréquente un boiteux finit par boiter. Je tuais sans même y réfléchir 2 minutes. Il faut tuer celui-là, tuons-le, et au suivant. Je ne cherchais pas à savoir pourquoi. Il fallait le tuer, pas besoin d'explication. J'étais apprécié de Cosa Nostra parce que je ne posais pas de questions.
Sur France Inter.
Un extrait du film Corleone, le parrain des parrains, signé Mosco Levi Bucco. On vient d'entendre un repenti de la mafia, c'est l'un des personnages qu'il a rencontré pour son film. Aux côtés de Mosco Levi Bucco, dans cette émission, il y avait le journaliste spécialiste du grand banditisme Jérôme Pierra et Anne Véron, l'auteur du documentaire Corleone, la guerre des parrains. Alors le film de Mosco Levi Bucco retrace un pan de l'histoire de Cosa Nostra, un moment de bascule lié à un homme, Totorina, le parrain des parrains. Ce film, Mosco Levi Bucco l'a signé 40 ans après l'année sanglante qui a marqué l'histoire du grand banditisme en Italie, 1979. Mais en quoi ? Que s'est-il passé précisément avec Totorina en 79 ?
Il a pris le pouvoir, il commence à s'attaquer aux institutions. C'est-à-dire qu'il commence l'année en tuant un journaliste, en faisant tuer un journaliste. Il poursuit l'année en tuant un politicien, mais qui voulait changer un peu les alliances politiques en s'approchant des communistes, donc Michele Reina. Puis après, il tue un commissaire qui était sur les traces de son beau-frère, Bagarella. Puis après, il tue un magistrat qui avait enquêté sur Corleone, mais bien avant d'être, enfin, dans les années 60, et qui est devenu député communiste, et puis qui est revenu à Palerme pour reprendre son métier de magistrat. Il l'élimine. Et puis, à la fin de l'année, enfin, au début de l'année 80, il élimine le frère de l'actuel président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui était le président de la région Sicile, et qui lui aussi avait voulu, dans son programme, rendre transparents les marchés publics.
C'était nouveau, ça, de s'attaquer aux institutions pour la mafia ?
Oui. Lizzo, son mentor Lizzo, l'avait déjà fait précédemment avec un procureur qui l'avait énervé, qui lui avait imposé, disons, des mesures judiciaires contraignantes, Pietro Scaglione. Mais à chaque fois qu'il tue, ils font circuler des bruits disant « Non, mais c'est une histoire de femme, c'est autre chose. » Ils n'assument jamais. La mafia de Lizzo, le mentor de Rina, et la mafia de Rina n'assument jamais ce qu'elle fait. Par exemple, l'assassinat de Sergio Mattarella a été très longtemps imputé à l'extrême droite. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la mafia. Pour moi, c'est les Corleone qui l'ont fait. Et les Corleone l'ont fait aussi avec l'accord ou à la demande d'un politicien qui est le fils du coiffeur de Corleone. Parce qu'il y a, si vous voulez, dans le nom que Mario Puzo donne à Marlon Brando, dans la série du parrain, il s'appelle Vito Corleone, du bourg.
C'est un petit village, donc dans la province de Palerme.
Un bourg, 12 000 habitants. Ouais. Donc il l'appelle Corleone, parce que la mafia de Corleone est puissante, et il l'appelle Vito. Alors, il y a eu un mafieux célèbre qui s'appelait Don Vito, ouais. Mais moi, j'ai toujours voulu croire que c'était Vito Ciancimino, le fils du coiffeur, qui devient le responsable de l'urbanisme à la mairie de Palerme, sans diplôme, et qui va brasser des milliards et saccager Palerme.
Alors, vous menez vraiment dans ce documentaire, on va en parler avec nos invités, un travail exceptionnel. Vous avez rencontré le procureur Ayala du maxi-procès, ça, on y reviendra. Il a obtenu la perpétuité pour Rina, mais aussi des repentis qui avance, visage masqué. Combien de temps vous avez pu mettre pour avoir d'abord toute cette documentation et puis surtout convaincre ces repentis de parler ?
Alors, il y a une journaliste française qui, je voudrais rendre hommage, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vie de mafia », qui avait interviewé un des repentis. Mmh. Et c'est un des repentis sans doute parmi les plus sincères. Parce qu'en fait, Ayala, le procureur, dit « Non, ce ne sont pas des repentis ». Parce que même Bouchetta, il n'a jamais regretté d'être mafieux. Il dit non, je reste mafieux, c'est Rina qui a trahi la mafia. Bon, donc ce sont des collaborateurs de justice, c'est-à-dire qu'ils signent un pacte avec la justice, en échange d'informations, mais véridiques, ils obtiennent un aménagement de leur peine. Et certains, aujourd'hui, sont libres.
Sous une autre identité.
Sous une autre identité, quelque part en Italie, et ils sont gérés par un service de protection.
Et c'est comme ça que vous les avez rencontrés? Voilà.
Alors, si vous voulez, Delphine Saint-Aubert, elle interroge Anselmo dans un livre qui s'appelle « Vie de mafia ». Ouais. Donc je l'ai vu, elle m'a dit qu'il y avait un magistrat formidable qui pouvait être à l'écoute, c'est Maurizio De Lucci. Hein. Donc je l'ai vu, et j'ai fait des demandes successives, mais on peut pas vous répondre dans les mois qui suivent. Souvent les demandes se perdent d'ailleurs, donc il faut relancer la secrétaire, etc. Après quoi, si la commission qui s'occupe d'eux est d'accord, il faut demander aux repentis s'ils sont d'accord. Bon. Par exemple, Brusca, en général, dit non. Pourquoi il a dit oui? Je n'en sais rien. Je
pense Pourquoi il a dit oui?
Parce que il a dit oui. Non, à mon avis, parce que je suis étranger. Il fallait être étranger, parce que dès qu'un Italien demande la permission, ça crée des polémiques. Il s'est dit, je peux, avec un étranger, transmettre un message. Et il a voulu transmettre un message, donc il l'a accepté.
Alors, on va rentrer plus encore dans l'histoire de la mafia avec nos invités, mais je vous sais grand admirateur du film Le Parrain, vous l'avez cité tout à l'heure, et le nom de Vito Corleone, c'est un clin d'œil donc à ce village sicilien. Et parmi les repentis que l'on voit dans votre film, il y en a un qui nous parle du film, justement, et notre réalisatrice Marion Lelay a réuni, a monté un extrait du film de Coppola et de votre documentaire.
Et Michael, tiens donc que je t'apprenne un truc. On sait jamais, un jour il faudra peut-être que tu fasses la tambouille. Tiens, regarde, d'abord tu verses une petite goutte d'huile, tu fais frire une petite pointe d'ail, tu rajoutes deux ou trois belles tomates, après tu verses le coulis. Tu fais revenir, mais sans que ça attache.
Et non, non, vedevo moi, io mi ricordo.
Vous avez vu Le Parrain? La scène où on les voit réunis. Le gros qui prépare les pâtes à la sauce tomate et aux saucisses.
T'attends que ça bouille, tu rajoutes les saucisses et puis les boulettes de viande.
Chez nous, c'était pareil.
Voilà.
Dans notre repère, il y avait un homme qui cuisinait, un autre qui faisait les courses, et nous, prêts à bondir dans une voiture pour aller tuer ceux qu'on nous avait balancés.
Je veux que tu lui règles son compte à cet enfant de putain et tout de suite. C'est lui qui a vendu papa. Ce fumier, je veux plus le voir ici. Tu le marques en tête de liste, d'accord?
Allez, je m'en occupe.
C'est un hommage donc à Coppola. C'est Coppola qui vous a donné envie de faire ce film sur Le Parrain des parrains?
C'est Coppola qui est en quelque sorte à l'origine de ça. Parce que Corleone, pour moi, c'était Marlon Brando, si vous voulez. Et j'en ai parlé un jour avec un protagoniste de la lutte contre la mafia, Giuseppe Cucchiara, sicilien, fils d'un magistrat. Et on parlait du parrain. Et lui me laissait parler. Et puis à un moment donné, il m'a dit, pour moi, Corleone, je suis désolé de te le dire, c'est une horde de sanguinaires, de barbares. Donc j'ai voulu savoir pourquoi il me disait ça. Donc j'ai commencé à lire, si vous voulez. Et il y a des spécialistes de la mafia sicilienne. Il y a des grands journalistes dont c'est la vie. Donc, si vous voulez, il y a des spécialistes. Donc j'ai commencé à lire.
Jérôme Pierrat, comment entre-t-on en général dans le monde de la mafia? J'imagine qu'il y a plusieurs. C'est toujours la même chose en Sicile.
J'ai l'impression que c'est toujours un peu le même truc parce que j'ai pas passé tant de temps en Sicile que Moscou, mais j'ai, par exemple, j'avais passé pas mal de temps au Japon au sein d'une organisation. Et finalement, c'était un peu les mêmes modes de recrutement, c'est-à-dire les jeunes instables du coin et du quartier qui sont repérés par les hommes d'honneur là-bas, ce sont les yakuza, ça peut être d'autres gens ailleurs, et puis qui ont cette faculté d'observation et de détection, et puis qui regardent un peu dans le quartier qui les forces vives du coin, et puis on essayait de les éduquer après en leur lavant plus ou moins le cerveau. C'est ce qu'ils racontent. Il y a une espèce d'embrigadement sectaire, puisqu'on est tellement coupé, même s'ils vivent dans la société civile à côté, ce qui est quand même pas mal la différence avec d'autres organisations. Il y a quand même un mode de pensée qui est, enfermé dans une bulle avec un curseur qui est complètement déplacé, etc. C'est ce qu'on voit. Donc, plus on s'enfonce là-dedans, année après année.
Et puis, ce qu'on voit, c'est que c'est aussi un ascenseur social, Anne Véron, de rentrer dans la mafia. Il y a un des témoins dans le documentaire de Moscou qui dit, je n'étais rien dans mon village, du coup, c'est pour ça que je rentre dans la mafia. Au moins, là, je devenais quelqu'un.
Pour l'ascenseur social, oui, moi je me rappelle justement de Mutolo qui m'avait raconté le jour où on lui avait fait son intronisation, où il est devenu associé avec tout le rituel. Et il disait le lendemain, il dit pendant 7 jours, pendant une semaine, je planais, j'avais l'impression d'être au-dessus de tout, au-dessus de tout le monde. Je devais changer d'amis, je pouvais plus fréquenter les mêmes personnes, tout le monde me respectait, Et il dit, on a l'impression d'être dans une sorte de transe, et c'est vraiment au-dessus même de Dieu. Il dit, on est vraiment dans quelque chose de... Ils arrivent à rendre quelque chose de complètement mystique. Et il avait raconté, voilà, la force de ce baptême, et l'ascenseur social, parce que lui, c'était qu'un petit voleur de rien du tout. Mutolo était vraiment pas grand-chose à la base.
Alors, ce qui est intéressant...
Par rapport à l'embrigadement, la bulle... Il y a une différence quand même en Sicile, c'est le rôle de l'Église. C'est que l'Église, pendant très très longtemps, a nié l'existence de la mafia. Elle disait que ce sont des inventions des journalistes communistes. Et donc, l'Église, en quelque sorte, ils se soutenaient mutuellement. Par exemple, Brusca, qui commettait des crimes, donnait de l'argent pour les processions, etc. Et le rôle de l'Église a été très important. Les politiciens aussi. C'est-à-dire que la mafia donnait des voix aux politiciens, en échange de quoi?
Notamment la démocratie chrétienne. Voilà. La démocratie chrétienne était mouillée avec la mafia. Totalement. Ce qui est intéressant par rapport à l'Église, c'est aussi le tout début de la mafia. Parce que moi, j'ai appris plein de choses, notamment dans le premier, Le pouvoir par le sang. Les origines donc paysannes oui. de cette mafia, c'est-à-dire les mafiosos, c'était les hommes que l'on respectait. Et c'est ceux qui gardaient, on va dire, les propriétés des nobles qui, eux, vivaient à Palerme et qui faisaient en sorte de faire tout fonctionner, de mettre les paysans sous leur coupe, etc. Mais c'était des gens très respectés, craint et très catholique, puisque même pendant les processions s'arrêtaient devant la porte de ces gens-là.
Et ça existe encore dans des villages en campagne, etc. Oui, de moins en moins, parce qu'elles sont de plus en plus filmées, de plus en plus critiquées, donc ça se fait de plus en plus discrètement, mais ça existe encore, et il y a de nombreuses vidéos qui sont incroyables, où il y en a une dans un village en campagne, près de Naples, où le maire avait menacé de s'en aller de la procession si... il s'arrêtait devant le balcon du mafieux. La procession s'arrêtait devant le balcon du mafieux qui était en robe de chambre et qui a attendu comme ça. Et puis on voit le maire qui enlève son écharpe, qui s'en va avec personne qui le regarde.
Encore aujourd'hui, ouais.
Non, mais le rôle de l'Église est grave parce que c'est surtout le seul, vu que le gouvernement, l'Italie est neuve et le gouvernement Rome n'a pas de pouvoir culturel dans ces zones-là. C'est le seul vrai pouvoir qui existe, c'est l'Église. Et c'est le seul qui aurait eu vraiment un impact important sur la société.
Moi, il y a un discours d'un pape, Jean-Paul II, quand il va à Agrigente, il improvise un discours où il dit aux mafieux, il leur dit pas « agenouillez-vous », mais il leur dit grossièrement « vous n'êtes pas les chrétiens ». Et c'est un discours, il n'est pas écrit, il l'improvise parce qu'il vient d'apprendre qu'ils ont abattu un juge et son fils. Et c'est un discours exceptionnel. Et aujourd'hui, le pape François, pareil, il a excommunié des mafieux en Calabre. Donc ça a changé un peu.
L'univers de la mafia, notamment en Sicile, c'est très masculin dans votre film.
Que des hommes
qui témoignent, à l'exception d'une photographe. Il y a quand même une femme dans le film. Mais les femmes, vous qui avez travaillé, Anne-Véron, sur les femmes dans la mafia, quel rôle elles ont? Vous avez dit dans une interview que j'ai retrouvée que sans les femmes, la mafia n'aurait pas pu exister.
Oui, c'est ce que dit tout le monde. La mafia, elle n'existerait pas sans les femmes, parce que dans les règles de la mafia, il y a écrit que les femmes ne peuvent pas être
intronisées,
voilà, associées. Mais elles le sont en se mariant avec leur mari, en déclarant fidélité à leur mari. Elles déclarent fidélité à l'organisation mafieuse et elles ont toujours joué un rôle important, que ce soit de messagères quand ils sont en cavale, que ce soit. Donc elles ont toujours joué et surtout de gardiennes en fait des valeurs. Et de transmettre aux enfants, en fait. Parce que très souvent, les à une époque, dans les années 80, même s'ils étaient en cavale, ils restaient en famille. Aujourd'hui, dans les années 90, depuis que la lutte à la mafia est plus forte, il y a des histoires de maris qui sont jamais là, qui sont ou en cavale ou en prison, et dont les enfants n'ont jamais vu pratiquement leur père, selon derrière lui, et pourtant ils deviennent des mafieux exactement comme leur père, en imitant complètement. Donc qui est-ce qui transmet ça? C'est le rôle de la femme. Et la justice depuis les années 90.
Mais des chefs de bande de femmes, il y en a pas dans la mafia, même dans les autres pays.
Quand il y en a, c'est toujours par intérim. C'est-à-dire
ils assument l'intérim.
Ils assument l'intérim le temps que le conjoint sorte de prison. Voilà, généralement c'est ça. Mais vous le trouvez d'ailleurs. Oui, on trouve ça en Amérique latine, etc. Ouais.
D'ailleurs, pour Rina.
Rina, donc.
Rina, au départ, n'appartient pas à une famille mafieuse traditionnelle.
Pas du tout, non.
C'est son épouse. Par contre. Ouais. Ninetta Bagarella, institutrice, qui appartient à une famille mafieuse de Corleone traditionnelle. Et on dit qu'elle a un rôle, quand même. La femme de Rina, c'est un mystère. C'est un mystère.
Elle est toujours en vie?
Oui, elle est en vie.
Mmh. Vous avez cherché à la rencontrer?
Non, je pense que c'est inutile, parce que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, sur la tombe de Rina... ils ont apposé une photo de lui souriant en crooner, on dirait George Clooney sur la tombe, c'est souriant, surtout avec une cravate. C'est impossible, cette photo n'existe pas, c'est du Photoshop. Je le vois pas, alors qu'il est recherché par toutes les polices d'Italie, entrer chez un photographe et poser comme il apparaît sur cette photo. C'est une photo où il doit avoir 55, 60 ans. En plus, ils ont posé sur sa tombe, vous savez, un nain de jardin. Mais le nain de jardin, c'est Padre Pio, qui est le saint des saints. en Italie. Il n'y a pas de Repio, il est partout, si vous voulez.
C'est un nain de jardin.
Ça, ah, il, non, mais parce que c'est tout petit. Si
ah oui, voulez, d'accord. C'est l'équivalent d'un nain de jardin. Ouais, je me suis dit, mais quel pays formidable.
Non, mais si vous voulez, donc, si vous voulez, ce sont les femmes qui tentent de, en quelque sorte, de faire une œuvre de révisionnisme, de blanchiment de l'histoire, si vous voulez. Ils veulent dire, mais non, mais Rina, c'était un bon père.
Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il racontait à son procès. C'est comme ça qu'il apparaît. Bon père, paysan,
chrétien,
petit entrepreneur, croyant, qui n'a jamais tué personne. Et la drogue, c'est vraiment très mauvais pour les jeunes, comme pour les vieux. C'est vraiment génial.
Non, et puis ce qui est incroyable aussi de Ninetta Bagarella, c'est qu'en 93, quand Totò Riina se fait arrêter, elle est encore avec ses enfants, les deux fils ne sont pas encore en prison, et elle décide de rentrer à Corleone au lieu de partir et de faire une autre vie et de se détacher de ça. Elle envoie un symbole très fort en rentrant à Corleone, en continuant d'asseoir le pouvoir de son mari, mais donc en continuant à laisser ses fils dans le crime.
Qu'est-ce que représente Riina véritablement dans l'histoire de la mafia sicilienne?
Ah, c'est une...
Qu'est-ce qui bascule c'est avec lui?
Bah, il tue. Il tue comme
les autres aussi.
Si vous voulez, la mafia par excellence. Non, mais non, la mafia par, si vous voulez, la mafia sicilienne, elle s'infiltre, elle est clandestine. Ayala le dit très bien.
C'est le procureur, oui.
Voilà, Ayala dit, si vous voulez, un meurtre, comment dire, les projecteurs sont braqués sur, si vous tuez dans un quartier, les projecteurs s'allument, les carabiniers arrivent, et vous pouvez plus faire du business sous, comme ils disent. Bon. Donc, si vous voulez, Riina, c'est à la fois l'homme qui intrigue, qui infiltre. Il sait placer un homme dans chaque famille adverse. Donc il sait ce qui se passe et il sait les manipuler. Si tu tues ton chef, tu prendras sa place. Il y a quelque chose de stalinien. On élimine les uns après les autres.
Anne Véron.
Non, et Mutolo dit, il expliquait une fois, pour bien expliquer bien ce qui était Riina, il dit avant la mafia, quand quelqu'un dérangeait, que ce soit un magistrat, un policier, la mafia était assez forte pour la mettre au placard, pour l'envoyer quelque part, etc. Riina, il est arrivé, il a dit, moi, je tue, comme ça, personne ne voudra prendre sa place. Mais ça, c'était sa
stratégie. Terrorisé, si vous voulez. Voilà, c'est un terroriste, un leader terroriste.
Un tragédien, comme dit le commissaire.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment l'État a traité, ou n'a pas traité, justement, cette histoire de mafia. On en est où, aujourd'hui, dans le rôle de l'État, par rapport à la mafia sicilienne?
Anne va vous expliquer ça, parce qu'elle connaît mieux la situation aujourd'hui.
Il y a eu le procès État Mafia qui a duré plusieurs années et qui a établi qu'il y a eu une tractation.
Une négociation
entre l'État et la mafia en 93 pour rendre Riina et arrêter le massacre et arrêter le bain de sang en échange du calme et de, donc ça c'est ce qui est établi aujourd'hui processuellement, mais en première instance, voilà, qui était.
C'est compliqué, cette histoire. C'est compliqué. Si vous voulez, pour ce qui est d'aujourd'hui, la police et les carabiniers et la Guardia di Finanza, qui est l'équivalent de la police financière, disons, ont des moyens techniques exceptionnels. Hier soir, par exemple, il y a un journaliste sicilien qui a raconté que autrefois, quand la commission était élue, elle pouvait régner 10 ans. Aujourd'hui, à peine une commission se constitue pour gérer Cosa Nostra, au bout d'un mois, c'est fini. Parce que, avec les écoutes, avec les micros, etc., ils arrivent à les arrêter. Et d'ailleurs, l'année dernière, un bijoutier palermitain de 80 ans a essayé de reconstituer la coupole et a été arrêté au bout d'un mois. Donc ils ont tous été rafés. Ça, c'est pour le rôle aujourd'hui. Aujourd'hui, la police italienne, la magistrature italienne est exemplaire. Et dans le cas de la magistrature, si vous voulez, quand la mafia tue Falcone...
Falcone, donc, qui était le juge qui a mené une guerre
et qui a condamné à perpétuité Riina. C'est-à-dire que si Riina a été trouvée et arrêtée, il ne sortait de prison que mort. Et donc, il a d'abord tué le maire mafieux qui faisait la liaison entre Rome et Palerme, au nom de la démocratie chrétienne. Il l'a tué et achevé avec une balle dans la nuque. Ensuite, il a tué Falcone. Et après, donc, deux carabiniers, mais très haut placés, à l'instigation de qui on pense que des gens se sont demandé, des politiciens siciliens se sont dit, mais qui sera le suivant ? Essayez de voir ce qu'on peut faire. Donc, ils entrent en relation avec le fameux fils du coiffeur, Vito Ciancimino, l'adjoint au maire qui s'occupait d'urbanisme, et ils lui demandent « Qu'est-ce que vous voulez en échange de l'arrêt des hostilités ?» Parmi ces demandes, il y avait donc de casser la perpétuité du maxi-procès. L'État dit non, les carabiniers disent non, on ne peut pas faire ça. À ce moment-là, très vite, il tue Borsellino, et l'accusation dont parle Anne, du procureur Di Matteo, entre autres, c'est de dire, parce que vous avez entamé des négociations, vous êtes responsable de la mort de Borsellino, puisqu'il entre dans la négociation. C'est comme une partie de poker. Je surenchéris en tuant Borsellino. Mmh. Tout le procès là, en première instance, il a été condamné.
À la fois Giuseppe Ayala, le procureur, lui vous dit dans le film qu'il ne verra pas la fin de la mafia en Sicile de son vivant.
Enfin, culturellement, c'est encore très présent.
Très présent.
J'étais pas mal de temps là, justement, dans la région de Trapani, d'où viendrait le chef le plus important aujourd'hui dans la mafia sicilienne, qui était un très proche de Totorina, qui l'a aidé, qui s'appelle Matteo Messina Denaro, dans cette région de Trapani. En effet, la police a des moyens exceptionnels, mais ils n'arrivent pas. La difficulté, c'est quand même encore ce mur d'Omerta et les avantages que procure encore financièrement, économiquement et culturellement la mafia par rapport à l'État italien.
Pendant ce travail que vous avez mené pour ce documentaire, est-ce que vous vous êtes senti quelquefois menacé? Est-ce que vous avez eu peur?
Non, d'abord parce que je suis tout seul, donc personne ne sait ce que je fais, donc c'est non. J'ai un regret, je pensais avoir une interview beaucoup plus longue avec l'avocat de Riina, l'avocat historique. Le danger peut venir de lui maintenant, parce qu'il m'a accordé une interview, après je me suis installé chez lui à la campagne, un mois, tout le mois d'août. Et j'ai rien tourné. Et à la fin, il m'a dit non, je ne dirai rien. Donc j'ai tout repris. Et lui, c'est l'avocat du beau-frère, etc. Bon, s'il y a une difficulté, il viendra de là. Voilà, donc je vous le dis.
Et c'est entendu. C'était Mosco Levi Bucco. Son film Corleone, le parrain des parrains, est disponible en VOD sur le site d'Arte et en DVD chez Arte Éditions. Jérôme Pierrat lui signait la BD documentaire Le Grand Banditisme, une histoire de la pègre française aux éditions du Lombard. Et Anne Véron, il y avait son documentaire Corleone, la guerre des parrains et des femmes dans la mafia, marraines et madones, un livre paru aux éditions du Nouveau Monde.
Nouveau rendez-vous sur France Inter.
Séquence live, Marion Guilbeault ce soir.
Vous vous souvenez de lui, Laurent? Ezra Furman.
On ne peut pas
l'oublier. Hein. Il était en robe, il était maquillé, il avait un collier de perles autour du cou et il avait une guitare à la main.
C'était son côté Marlon Brando.
Ah ouais, complètement Marlon Brando, lui, alors. L'enfant terrible de la pop américaine, celui qui se présente comme punk, comme queer, comme gay, comme juif, avait choisi de nous jouer un des titres les plus apaisés de son nouvel album, 12 Nudes, une vraie petite bombe de punk mélodique.
Are writing their resumes. My responsible friends are applying for jobs. But me, I was considering ditching Ezra and going by Esme. Baby, would you find that so odd? My dying friend are finding religion, while my intellectual friends are all denying God. But me, I got just one ambition. I sit around all
Ezra Furman et ses musiciens en live pour I Wanna Be Your Girlfriend, cet extrait de son nouvel album 12 Nudes, avec cette magnifique pochette signée par l'illustratrice barcelonaise Cristina Dora.
Ça, c'était le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV la suite France Inter Plus. Mais on se retrouvera, nous, mercredi avec ça.
No, not you. Quiet, quiet. You are fake news.
Il est vraiment formidable. Fake news, Bannon et populisme au programme. Bien sûr, on parlera de Donald Trump. Le NRV, c'est Marion Lelay et Juliette Medeviel à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rosic, Clémence Diligent, Benoît Lagan.
Rendez-vous.